Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous à la une ce matin. Des combles comme des étuves ou comme des congélateurs, c'est selon des murs qui laissent passer l'air. Comment rénover les millions de passoires énergétiques de France? Une loi s'y emploie devant les députés aujourd'hui, mais pas assez, disent en chœur le Secours catholique et le réseau Action Climat. Explication dans un instant. Et avec la canicule, vous prendrez bien un peu de pollution. Joyeux cocktail en perspective, ça tombe bien. On attend l'annonce du déclenchement automatique de la circulation différenciée lors des prochains pics. Plus besoin de demander. Un climat qui inquiète toutefois la filière du diesel en France. Elle a été ministre de la Santé. Elle est donc bien placée pour parler canicule et crise des urgences. Notamment, elle sera là dans 20 minutes.
Oui, il s'agit de Marisol Touraine qui par ailleurs prend la présidence du conseil d'administration d'Unité, dont parlera donc de lutte contre le sida également. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Vous pouvez intervenir, dialoguer avec elle, poser toutes vos questions. 01 45 24 7000.
À la une également, les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran. Il n'y a que ça qui marche pour Washington. Les héritiers d'un collectionneur d'art déporté qui réclame 3 tableaux à 2 musées français. L'Amérique championne du monde en quart de finale pour les Bleus. Et Toy Story, dernier du nom au cinéma, de quoi nous rafraîchir.
France Inter.
Beaucoup trop froid l'hiver, beaucoup trop chaud l'été, tel est le destin des habitants des logements passoires, ceux dont l'isolation les relègue en catégorie F ou G dans les diagnostics, soit 7,5 millions de maisons et d'appartements qui coûtent cher à ceux qui les chauffent et au climat. Le projet de loi énergie qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui est censé s'y attaquer, pas à la hauteur pour les associations écolo et caritatives, Lisa Guyenne.
Les défenseurs du climat s'attendaient à des mesures contraignantes pour éradiquer les passoires thermiques. Finalement, il n'y en aura qu'une poignée. La principale, à partir de 2022, les propriétaires qui voudront vendre ou relouer un appartement devront fournir un audit énergétique avec une estimation des travaux à réaliser, ce qui est très loin d'être suffisant, selon Anne Bringot de l'ONG Réseau Action Climat.
Pour l'instant, ce qu'ils prévoient, c'est d'avoir des mesures incitatives pour rénover les logements et pas de mesures un petit peu plus contraignantes. Or, malheureusement, il faut passer à ce type de contraintes, notamment pour les locataires qui sont souvent oubliés des dispositifs.
Parmi les mesures incitatives proposées, bien plus nombreuses, les propriétaires voulant augmenter leur loyer seront incités à justifier de travaux de rénovation énergétique. Les agences immobilières seront invitées à fournir des estimations en euros des factures annuelles de chauffage. Mais rien de tout cela ne devrait permettre de résorber la précarité énergétique, selon Jean Mercat, directeur du plaidoyer du Secours catholique.
On a enfin l'occasion de faire que cette transition écologique, ça devienne une bonne nouvelle pour le portefeuille des plus précaires. Nous, on se demande au Secours catholique, qu'attend le gouvernement pour mettre enfin les moyens ? On attend toujours.
Débattu jusqu'à jeudi à l'Assemblée, le projet de loi sera soumis au Sénat le mois prochain.
Et comment s'isoler des 39 degrés qui séviront à Grenoble aujourd'hui, des 41 attendus demain à Clermont et à Lyon? Il ne fera que 34 entre guillemets à Paris ce mardi, mais certaines écoles ressemblent déjà à une sorte de mélange sauna-hammam. On n'est pas tout à fait au taux d'humidité du hammam, mais c'est quand même très pénible. Alors la question se pose de fermer certains établissements jeudi et vendredi. Ce sera possible au cas par cas, a dit l'Éducation nationale. En attendant, les directeurs font ce qu'ils peuvent. Reportage dans une école d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, avec Yann Gallic.
Malgré la chaleur, les enfants continuent à courir dans tous les sens pendant la récréation. Devant les toilettes, ils s'arrosent avec des bouteilles d'eau, un jeu à la fois amusant et rafraîchissant.
Est-ce que vous avez chaud ?
Professeur en classe de CM1, Cyril donne quelques consignes à ses élèves.
Les consignes, c'est d'éviter de jouer au foot, beaucoup boire, se mouiller un petit peu le visage. En classe, on leur demande de ramener des bouteilles d'eau. Lorsqu'ils ont soif, ils peuvent se lever assez souvent pour aller boire. Et on aère le plus possible pour essayer de créer des courants d'air.
Dans cet établissement scolaire assez ancien, les fenêtres sont équipées de stores et de pare-soleil, mais les salles de classe restent mal isolées.
C'est un peu compliqué sur certaines écoles, comme ici où effectivement les classes sont au premier ou deuxième étage, il n'y a pas de rez-de-chaussée qui est le plus frais.
Olivier Davin, le directeur de l'école.
S'il fait trop chaud, c'est de descendre dans la cour, dans les zones d'ombre. Après, on a été obligé d'annuler les sorties en extérieur sur cette semaine. Nous avons aussi reçu des bouteilles d'eau de la municipalité En moyenne, je dirais qu'il y a une bouteille de 2 litres pour 3 élèves.
À cause de la canicule, les épreuves du brevet des collèges ont été reportées, mais la plupart des écoles élémentaires et maternelles devraient rester ouvertes. Une décision qui étonne Olivier Davin. Malgré les recommandations du ministère de l'Éducation, ce sera difficile, dit-il, de garder les enfants au frais.
Voilà, les épreuves du brevet n'auront effectivement pas lieu jeudi et vendredi, mais lundi et mardi, histoire que les élèves ne cuisent pas sur leurs copies, de quoi les bousculer un peu dans leur programme. Mais ça n'est pas plus mal pour Louise, 14 ans, interrogée à Paris par Mathilde Dehimi.
Je m'y attendais pas du tout, parce que je me disais, certes il va faire 40 degrés, 50 limite, mais je pensais vraiment qu'ils allaient nous prévenir plus à l'avance, quoi. Je comprends totalement parce que 60 dans une salle, sachant qu'il n'y a pas de clim, etc., et que dehors il fait encore plus chaud qu'à l'intérieur, ça va être très compliqué, donc ça va être mieux, on sera plus à l'aise, on pourra plus se concentrer que s'il fait 50 degrés, quoi. Le fait que le brevet soit décalé de 2 jours, je vais juste. Mes révisions vont être décalées de 2 jours en fait. Je me connais très très bien, je sais que je vais pas réviser. Je sais que c'est pas bien, mais bon, je suis comme ça, j'arrive pas. J'ai encore 2 heures de révision de maths demain, et je dis non, je vais rien faire. Je vais rester dans le noir, telle une chauve-souris, devant le ventilateur, faire le moins de trucs possible, quoi, pour ne pas trop crever de chaud, etc., parce que je supporte très très peu la chaleur.
Voilà, et côté transport, sachez-le, la SNCF a déclenché son plan forte chaleur avec limitation de la vitesse des trains si nécessaire pour éviter une surchauffe des rails, et puis bouteilles d'eau et coffrets repas en nombre à disposition pour les voyageurs en cas de perturbation. 53 départements en vigilance canicule, et voilà. La pollution, Paris et Lyon demandent la mise en place de la circulation différenciée demain, ce qu'elles n'auront bientôt plus besoin de faire. Un nouveau dispositif va entrer en vigueur à Paris, qui va rendre ses restrictions automatiques en cas de pic. Seuls les véhicules aux vignettes 0, 1 et 2 seraient autorisés à rouler et plus les 3, comme c'était le cas jusque-là. François de Rugy à l'écologie, Elisabeth Borne au transport l'annonceront ce matin et ils veulent que ça se passe de la même façon dans toutes les grandes métropoles.
Il est 8h. Merci d'écouter France Inter. La suite du journal, Florence Paracuelos.
C'est dans ce contexte que les représentants de l'usine Bosch de Rodez ont rendez-vous à Bercy aujourd'hui. Ils fabriquent des injecteurs pour les moteurs diesel et comme tout le secteur, ils subissent de plein fouet le déclin des ventes du diesel. Du coup, Faustine Calmel, ils vont plaider pour que ces voitures que les Français achètent de moins en moins bénéficient de la vignette critère 1.
Sans vignette critère 1, il n'y aura pas de salut pour le diesel, disent-ils. La preuve, certaines villes veulent bannir ces véhicules de leur route dès 2024 pour Paris. Et c'est ce qui explique en partie la chute des ventes, estime Yannick Anglarès, délégué CGT chez Bosch Rodez.
La baisse du diesel, on le sait très bien, ça vient du dieselgate de Volkswagen à l'origine. Mais le fait que les professionnels aient des craintes quant à l'utilisation des véhicules de diesel dans les grandes villes avec le problème de la vignette ne fait qu'empirer les choses.
Le diesel représentait 55% des immatriculations il y a 3 ans, c'est à peine un peu plus d'un tiers aujourd'hui, avec des conséquences pour l'emploi. Entre 10 000 et 15 000 postes menacés à court terme, calcule l'Observatoire de la métallurgie, et les 1 500 de Bosch Rodez sur la sellette, craint Yannick Anglarès.
Si on n'a pas ce classement-là, c'est la fin de l'industrie diesel en France. Il continuera à avoir des voitures diesel qui rouleront en France, mais plus rien ne sera fabriqué en France, car les équipementiers tels que Bosch se désengageront de la France si le marché du diesel recule encore, voire s'écroule.
Pour appuyer leur demande de classement critère 1, les syndicats de Bosch réclament une étude scientifique au gouvernement qui comparerait les émissions des moteurs essence et des diesels nouvelle génération, pas plus polluants, assure-t-il. Annoncé en mars dernier, cette étude n'a toujours pas été lancée.
Voilà, et outre Paris et Lyon, l'alerte pollution a été déclenchée hier soir à Grenoble, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. En Guadeloupe, la chaleur, on connaît, mais les habitants du Gosier n'en peuvent plus des coupures d'eau constantes. Ils ont bloqué la ville hier, l'une des plus touristiques de l'île, en installant des barrages un peu partout. La vétusté du réseau d'eau est un problème majeur dans ce département d'outre-mer. Tout un service d'urgence sans infirmière. Celles du CHRU de Besançon n'ont pas pris leur service hier soir. Elles sont 5 en arrêt maladie pour épuisement. La direction les a remplacées par des infirmières d'autres services. 130 hôpitaux sont concernés par la grève des urgentistes qui a commencé à la mi-mars. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi prochain.
Il est 8h10 à l'étranger. Florence, une conférence pour les Palestiniens, sans les Palestiniens.
Ils boycottent le rendez-vous de Bahreïn où le gendre de Donald Trump a rendez-vous avec les États du Golfe et le FMI notamment. notamment le but étant de mobiliser 50 milliards de dollars pour l'économie des territoires, ce qui n'a pas de sens pour l'autorité palestinienne en absence d'un règlement politique du conflit avec Israël. En Iran, les nouvelles sanctions de Washington sont un point de non-retour. Elles constituent la fermeture définitive du canal diplomatique, dit ce matin Téhéran. Donald Trump a asphyxié un peu plus le régime hier en gelant les avoirs du guide de la révolution, l'ayatollah Khamenei, une arme économique qui a déjà fait ses preuves. C'est un haut responsable du département d'État qui l'explique à Christian Chesneau.
Faute de frappe militaire, les États-Unis continuent leur pression maximale sur l'Iran. L'objectif de la Maison-Blanche est de mettre à genoux l'économie de la République islamique pour forcer ses dirigeants à négocier un nouvel accord, mais aux conditions de Washington. Et pour Brian Hook, chargé du dossier iranien au département d'État, cette stratégie d'étouffement commence à porter ses fruits.
En mars dernier, l'Iran a voté son budget 2019 et il y a une baisse de 29% des dépenses militaires. Avec la mise en place de nos sanctions, nous avons pu constater des coupes financières qui concernaient aussi les gardiens de la révolution.
Cette asphyxie financière vise aussi à couper les ailes de l'Iran dans la région, Téhéran étant accusé d'ingérence par ses voisins arabes. Et là encore, les sanctions donnent des résultats, selon Brian Hook.
L'Iran n'a plus autant d'argent pour financer le Hezbollah, le Hamas, le djihad palestinien, les milices chiites en Irak, en Syrie, les Houthis au Yémen. Ça ne veut pas dire que nous avons éliminé la capacité de l'Iran à mener une attaque asymétrique, mais nous savons que les alliés locaux de l'Iran souffrent en ce moment.
Reste que cette stratégie a aussi ses risques, notamment celui de radicaliser l'Iran en favorisant les durs du régime au détriment des modérés.
Christian Chesneau, c'était l'un des 10 criminels les plus recherchés au monde, retrouvé et incarcéré en Uruguay il y a 2 ans. Le mafieux italien Rocco Morabito, chef de la 'Ndrangheta, s'est évadé de sa prison. L'Italie attendait son extradition pour trafic international de drogue. Il s'est échappé par le toit, ce qui agace passablement le gouvernement italien. Évasion déconcertante, a jugé Matteo Salvini. Les couleurs flamboyantes de paysages à Cassis et de Pinède, les lignes droites de la chapelle sous Crécy. 3 toiles du peintre André Derain. Elles ont appartenu au collectionneur et résistant René Guimpel, mort en déportation pendant la guerre. Ses descendants demandent aujourd'hui leur restitution au musée Cantini de Marseille et au musée d'art moderne de Troyes. Ce que ces deux musées vont contester au tribunal. Aujourd'hui, à la grande colère de la petite fille de René Guimpel que Corinne Audouin a rencontrée.
Voilà. Alors ça, c'est le tableau. C'est une vue de Cassis qui est à Troyes.
Sur son ordinateur, Claire Guimpel montre les tableaux d'André Derain qui appartenaient à son grand-père, René, grand marchand d'art entre les deux guerres.
Ce grand-père était un personnage immense dans la famille. Il passait son temps entre Londres, New York et Paris. Il connaissait Monet, Renoir, enfin bon. Donc on a une très belle image de lui.
En 1940, victime des lois anti-juives de Vichy, René Guimpel est interdit d'exercer. Il quitte Paris pour le Sud. Avant d'être déporté, il vend des tableaux pour vivre et financer la résistance.
Pendant la guerre, il continue à avoir les mêmes frais qu'avant et même davantage. Donc oui, il est obligé de vendre.
Ces ventes étaient-elles forcées? Pour le ministère de la Culture, les preuves sont insuffisantes. Alors les petits-enfants de René Guimpel ont décidé d'aller en justice. Ce n'est pas une question d'argent, explique Claire.
Je disais, mais si même il me proposait de refaire le cartel à côté du tableau et qu'il racontait l'histoire du tableau et qu'il reconnaissait René Guimpel dans la provenance des tableaux, je serais ravie. Mais ils n'ont même pas été capables de faire ça. Et donc je vais à la chasse de ces tableaux pour réinstaurer la mémoire de mon grand-père et d'autre part que la France se rende digne.
À 60 ans, Claire Guimpel sait que le temps joue contre elle. Il faut en parler, dit-elle. Bientôt, il sera trop tard.
Voilà, cette histoire, Corinne Audouin vous la raconte aussi sur franceinter.fr.
8h14, les championnes du monde sur la route des Bleus, Florence, au Mondial féminin de football.
Mais oui, on s'y attendait. Les Et Américaines oui. En quart, vendredi à Paris, après leur victoire hier soir 2-1 contre l'Espagne. Et le problème pour les Françaises, c'est que ces championnes n'ont pas beaucoup de points faibles, explique Nadia Ben Mokhtar, la consultante de France Inter pour ce mondial.
L'équipe américaine, c'est un rouleau compresseur, on va dire, notamment sur le plan athlétique. Elles ont des stars, évidemment, mais elles ont surtout une capacité à écraser l'adversaire dans les duels, dans les courses, à mettre beaucoup d'intensité dans les matchs. C'est une équipe qui a beaucoup de puissance offensive. On connaît les stars, c'est quasiment toutes des joueuses offensives. Peut-être que la clé de ce match, ça va être d'aller faire jouer un petit peu leur défense. Elles ont des défenseurs qui ne sont pas les plus doués de cette équipe. Elles n'ont pas l'habitude d'être embêtées, les défenseurs américaines, parce que souvent les équipes ne jouent pas trop finalement contre les États-Unis. Je pense que si l'équipe de France fait le pari d'aller les chercher un peu plus haut, de jouer, d'essayer d'avoir la maîtrise du ballon, c'est à ce moment-là qu'on pourra leur poser problème.
Voilà, Daniam Ben Mokhtar, consultante de France Inter pour ce mondial avec Guillaume Batin. Enfin, beaucoup plus rigolo que d'aller se rafraîchir au supermarché où est-ce qu'on peut aller quand il fait trop chaud, Nicolas ?
Au cinéma.
Et oui, au cinéma et avec les enfants, c'est encore mieux pour voir le quatrième opus de Toy Story, saga des jouets qui font leur vie quand on ne les voit pas. Et profitons-en, Corinne Pellissier, parce qu'après, c'est terminé.
Vers l'infini.
Les studios Pixar changent de cap. Pour résister à la concurrence des Marvel et autres Star Wars, il va falloir désormais jouer la carte de l'innovation. Apprendre aussi à se passer de John Lasseter, le papa de Toy Story, qui a dû quitter le navire dans la foulée de l'affaire Weinstein. C'est donc un double point final qui se profile dans ce quatrième et dernier épisode que personne n'attendait vraiment.
Nous avons une urgence.
Dans le précédent volet, Andy, l'enfant de la famille, abandonnait ses jouets pour entrer à la fac et l'aventure s'arrêtait là pour Woody, le cow-boy et Buzz l'éclair. Tout du moins, c'est ce que pensaient les fans, avant de les retrouver 10 ans plus tard, aux côtés d'une nouvelle petite fille, Bonnie.
Woody ? On va pas retrouver Bonnie ?
Car telle est la mission des jouets, apporter du bonheur aux enfants, même s'ils aimeraient parfois vivre leurs propres aventures.
Regarde, pourquoi rester dans une chambre d'enfant quand on peut profiter de tout ça ?
Wow.
C'est donc un nouvel épisode en forme de quête existentielle que nous proposent cette fois-ci les studios Pixar. L'amour, la vie, la loyauté, comment aussi trouver sa place quand on n'est plus le jouet préféré ? Un épilogue rempli d'humour, d'aventure et de nouveaux jouets, une fourchette en plastique et une effrayante poupée qui parle.
Bonjour Woody, je m'appelle Gabi Gabi.
Rencontrée dans un magasin d'antiquité.
Nous ne pouvons pas rester.
Si, vous pouvez. Benson.
De Morand l'éclair, si on prenait une place.
Avec grand plaisir. Hein ? Merci beaucoup, Florence Paracuelos.